Et le journal.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de votre journal de ce dimanche 10 mai 2026. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, une nouvelle attaque attribuée au terroriste ADF a fait de nouvelles victimes dans la localité de Makele ce dimanche 10 mai 2026 à Ituri. Les forces vives crient au secours des services de sécurité. Les réactions des partis politiques congolais continuent à tomber après le point de presse du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. À suivre dans cette édition, Maître Kachuva Mutanga Isaac, président national du Parti centriste Nouveau Congo, qui indique que le peuple congolais a déjà tranché à travers la Constitution. L'automédication a des conséquences fâcheuses sur la santé de l'homme. Le docteur Kaliman Zanzu, que vous allez suivre dans cette édition, prévient la population et l'appelle à sans prévenir. L'émission Tribune Femmes de la Moto TV a récompensé certaines femmes qui se sont distinguées, chacune dans sa profession. Parmi elles, une enseignante de 61 années d'expérience professionnelle, une sage-femme reconnue pour son dévouement dans le domaine de la santé, ainsi que l'expérience d'une femme militaire. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres et les détails, c'est dans quelques instants.
Voix qui nous unit, l'image qui nous ressemble.
Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce radio-journal par cette page de la santé. Le docteur Kaliman Zanzu prévient la population face aux dangers liés à l'automédication sur la santé humaine. En effet, cette pratique consiste à consommer des médicaments achetés à la pharmacie sans aucune prescription médicale. Le professionnel de la santé l'a dit à la RTE. Voici le reportage d'Espérance Sindani.
Dans une interview accordée à la RTE, le docteur Kaliman Zanzu met en garde contre les dangers de l'automédication. Selon lui, cette pratique expose la population à de nombreux risques sanitaires, notamment des complications médicales, des réactions allergiques et des effets secondaires graves. Il a rappelé que tout malade doit être examiné par un médecin avant toute prise de médicaments afin de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Il insiste également sur le fait que certains produits pharmaceutiques, lorsqu'ils sont utilisés sans contrôle médical, peuvent mettre en danger la vie des patients.
Il y a des conséquences, le fait qu'on prend les médicaments sans savoir si on souffre de quoi. Normalement, quand on prescrit les médicaments, c'est après des examens. Et les examens, ce ne sont pas seulement les examens des labos. Normalement, on doit connaître le malade souffre de quoi. On l'examine, donc on essaie de voir sur son corps s'il n'y a pas des éléments qui sont perturbés. Et après, on peut demander maintenant des examens de laboratoire. Ce n'est qu'à la fin qu'on peut maintenant dire on prescrit tel médicament ou tel autre.
Face à cette situation, il appelle la population à abandonner cette mauvaise habitude et à consulter les structures sanitaires compétentes en cas de maladie dans le but de prévenir les complications liées à l'usage abusif des médicaments.
Le message que je vais leur donner, c'est d'éviter d'aller acheter des médicaments par eux-mêmes. Parce que ces médicaments ont des effets secondaires. Ces médicaments, des fois, on peut les prendre, on s'intoxique avec. Et il y a aussi de ces médicaments qui sont normalement contre-indiqués pour certaines personnes ou pour certaines maladies. Alors, quand on prend les médicaments comme ça, sans savoir quels sont les effets secondaires, quelles sont les contre-indications, on peut un jour se retrouver avec des reins qui sont déjà malades ou bousillés, et surtout un foie qui est déjà détruit. Or, quand le foie est détruit, quand les reins sont déjà malades, il n'y a pas de pièces de rechange.
La plupart de la population fait recours à cette pratique, qui est malheureusement dangereuse à court et long terme, note le docteur.
Et nous l'avons annoncé au sommet de cette édition à l'occasion de la 5e édition de l'émission Tribune Femmes. Moto Télévision a donné des prix de mérite à 4 femmes ainsi qu'à 3 organisations qui se sont distinguées par leur impact positif dans la société de Boutembo. La cérémonie s'est déroulée le samedi 9 mai 2026 à l'hôtel La Charité. C'était à présence de plusieurs invités venus soutenir la promotion de la femme. Ange Kavuya pour plus de détails.
Selon la présentatrice de l'émission Tribune Femmes à la Moto TV, Eugénie Moussibiroa, cette initiative vise à encourager et valoriser les femmes qui, malgré leur potentiel et leurs efforts, se sentent parfois négligées au sein de la société. Parmi les femmes primées figurent 3 du troisième âge. Parmi elles, une enseignante des 61 années d'expérience professionnelle, une sage-femme reconnue pour son dévouement dans les domaines de la santé, avec plus de 50 ans d'expérience professionnelle, une tisseuse de corbeilles, ainsi qu'une femme militaire saluée pour son engagement au sein de la nation. 3 organisations ont été également récompensées pour leur action en faveur de la communauté, notamment Fistula, l'OFEPACO et FEPSI. Eugénie Moussibiroa indique que toutes les femmes méritent d'être honorées pour leurs efforts et leurs sacrifices quotidiens. Elle a toutefois précisé que l'émission Tribune Femmes poursuivra cette initiative afin de mettre à lumière d'autres modèles féminines inspirants. Elle a également invité les femmes à faire preuve de courage et de détermination dans leurs différents domaines d'activité.
Si on se base question prix, c'est toutes les femmes qui méritent être primé. Alors, c'est pour cela qu'on met des éditions pour diversifier des secteurs. Les femmes, nous devons croire en nous-mêmes, nous devons croire à nos capacités. C'est vrai, nous avons divers talents. L'une est journaliste, l'autre est enseignante. Alors, ce que tu es, femme, fait que ça puisse laisser des empreintes là où tu vas pour le développement de la société.
Salut à l'initiative, Sœur Brigitte, l'une des lauréates du jour, a remercié Moto Télévision pour cette marque de reconnaissance. Elle a encouragé les femmes à travailler avec courage, persévérance et confiance afin de contribuer au développement de la société.
Plus de 5 ans dans la carrière de sage-femme, j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Et quand on m'avait invité, je ne savais pas ce qui m'attendait. J'ai dit vraiment un grand merci. Les autres, je dirais vieilles comme auquel vous avez passé, je me dis quelle inspiration. Je suis très contente.
Je veux dire que vraiment, il faut que chacun dans sa carrière, que chacun puisse prendre sa carrière au sérieux.
À travers cette initiative, Tribune Femmes confirme son engagement dans la promotion de la femme et la valorisation des acteurs sociaux qui œuvrent chaque jour pour le développement de la communauté à Boutembo. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive.
Les réactions des partis politiques congolais ne tarissent pas après le point de presse historique du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi qui a touché les sensibilités politiques en exprimant sans se voiler la face son ambition de changer la constitution envie de se représenter pour le 3e mandat consécutif. Dans une sortie médiatique à partir de la ville de Boutembo, Maître Kachuva Mutanga Isaac, président national du parti politique centriste Nouveau Congo, a déclaré que la population congolaise n'aura plus d'autre lieu ou moyen de s'exprimer au sujet du mandat présidentiel en République démocratique du Congo. Le souverain primaire qui est le peuple s'est déjà déclaré prononcé à travers la Constitution. Détail avec Gisèle Lukambo.
Un mandat, une seule fois renouvelable, voilà ce qui est écrit dans la Constitution de la République démocratique du Congo et qui s'est déjà appliqué auprès prédécesseur du président Félix Tshisekedi. Selon Maître Kachuva Mutanga Isaac, président national du parti politique Nouveau Congo NC, il s'est noté une sorte d'amusement de mauvais goût dans les propos tenus par Félix Tshisekedi lors de son point de presse à Kinshasa. Pour Maître Isaac Mutanga, le peuple a déjà tranché dans la constitution.
Dans la conduite des affaires de l'État, il faut éviter des amusements du mauvais goût. Quand il a parlé de si le peuple le voulait, si le peuple le lui accordait, qu'il serait tenté de briguer un troisième mandat. Le peuple s'est déjà exprimé à travers notre constitution. Et notre constitution reconnaît la possibilité pour un président en exercice de renouveler une seule fois son mandat. Je prends toujours l'exemple des États-Unis d'Amérique. La consécration des limitations des mandats est intervenue après plus ou moins 2 siècles. Tout le président américain s'est limité toujours à 2 mandats présidentiels. Celui qui avait osé aller au-delà des 2 mandats, le président Roosevelt, était mort avant de finir le troisième mandat.
Sur le plan juridique, la même constitution de la RDC prévoit qu'elle est intangible pendant la période de guerre.
Au-delà même de ces considérations d'ordre théorique, il y a aussi des questions d'ordre juridique et d'opportunité. Sur le plan juridique, l'article 219 de notre constitution est clair. Pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, il ne peut être procédé à aucune révision de la constitution. Or, c'est dans de telles situations que nous sommes. Comme il l'a dit lui-même, le pays est en guerre.
Que craindre alors si le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi ne cède pas à la proposition d'organiser un dialogue intercongolais tel que souhaité par plusieurs compatriotes?
S'il s'entête dans cette position-là de ni élection ni dialogue, on risque de se retrouver dans une situation où on a des institutions illégitimes. Et que donc tout le monde sera libre d'activer l'article 64 alinéa 1er de notre constitution. Ce qui est grave pour la stabilité institutionnelle dans notre pays. Il faut qu'ils comprennent que dans quelques jours ici, il ne sera plus légitime. Donc nous ne serons plus obligés de lui obéir comme chef de l'État.
Au sujet du référendum également évoqué lors du même point de presse du chef de l'État Félix Tshisekedi, le juriste Isaac Mutanga, au cadre du parti politique centriste Nouveau Congo, pense que tout cela est impossible. Le pays est en guerre, de surcroît occupé par une rébellion étrangère dans sa partie orientale.
Et nous restons dans le même chapitre. La révision ou le changement de la constitution de la République démocratique du Congo dépendra de l'action ou de l'inaction de la société civile. Voilà ce que pense le professeur Kaindo Mouessi Augustin au cours d'une interview téléphonique accordée à la RTE et votre radio. Pour ses cadres scientifiques à l'est de la République démocratique du Congo et analystes indépendants, rien n'est encore gagné autour du débat sur une éventuelle modification de la Constitution. Il estime que la mobilisation citoyenne jouera un rôle déterminant dans l'évolution de cette question politique. Le professeur Kaindo Mouessi Augustin a été joint par votre radio.
Tout va dépendre aussi, n'est-ce pas, de l'action ou de l'inaction des sociétés civiles congolaises qui ont aussi un mot à dire. Et puisque dans l'histoire de ce pays, il est arrivé que face à une tentative d'une seconde révision, pendant le règne de l'ex-président Joseph Kabila, que le peuple dise non. Et on a vu au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que c'est lorsque Robert Minaku était président de l'Assemblée nationale, on a vu l'Assemblée nationale faire marche arrière. Donc, le Congo, c'est un pays d'extrême. Il est possible que le projet passe si le pouvoir y met les moyens, les ressources pour corrompre les leaders de communautés politiques, les acheter avec l'argent ou des postes politiques. Mais il est aussi possible que si les chancelleries se mobilisent contre le projet, ainsi que les acteurs assez civils, il n'est pas impossible qu'on aille vers l'autre extrême, c'est-à-dire qui pourrait consister à avoir le pouvoir renoncer à ces projets. Mais pour le moment, il est très tôt de dire vers quelle tendance on pourrait aller, parce qu'il faudrait que l'on voit comment les différents acteurs dont je viens de parler, qu'on essaie de voir quelles sont les stratégies que ces acteurs vont mettre en marche, ou les rapports de force qui vont pouvoir être observés sur le terrain du jeu politique.
Et changeons de chapitre, parlons de l'insécurité à présent. Un jeune garçon du nom de Kamba Lezawadi a été grièvement blessé par balle la soirée du samedi 9 mai 2026 à Ndiapanda Ruese, dans la commune rurale de Luotu. Le crime a été commis par un élément Muzalendo autour de 19h30. Le criminel court jusque-là dans la nature et la nouvelle est confirmée par Madame Kavira Balikwisha Merveille Katamira, actrice politique et ressortissante de Luotu. Cette femme est leader de la contrée et cadre de l'IDPS Tshisekedi, Fédération de Boutembo, déplore ce énième incident à l'actif de Wazalendo incontrôlé en territoire de Lubero. Elle appelle à l'implication urgente de l'administrateur du territoire, du délégué du gouverneur et de la synergie des VDP en fait de réprimer correctement les auteurs de ces crimes dans cette partie du territoire de Lubero. Toujours en insécurité, au Nord Kivu, les réactions se multiplient après l'attaque par drone sur le village de Mushaki dans le territoire de Masisi à l'ouest de la ville de Goma, vendredi dernier, ayant fait une vingtaine de morts. Selon nos sources locales, l'autorité Laurent Mugiraneza, au notable et cadre de la société civile du Nord Kivu, appelle le gouvernement congolais, les rebelles du M23 ainsi que les Rwandais à respecter les engagements pris dans le cadre des accords de paix. Selon lui, cette nouvelle attaque démontre une violation des engagements visant à restaurer la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Détail de Gisto Mouindou.
Laurent Guiranesa, cadre de la société civile au Nord Kivu, exhorte toutes les parties prenantes au processus de paix à privilégier les dialogues et à œuvrer sincèrement pour les retours d'une paix durable dans la région. Il appelle également toutes les parties impliquées à respecter leurs engagements.
Nous constatons qu'il y a méfiance à l'appel international qui exige le cessez-le-feu, une méfiance aux résolutions même du Conseil de sécurité de 1773 qui exige que les Rwanda RDF retirent ces militaires à République démocratique du Congo. Et face à ce refus, le Rwanda continue à armer et à investir ses militaires et d'ailleurs jusqu'à construire un camp militaire en République démocratique du Congo.
De la même dynamique, il insiste sur la nécessité de traduire les engagements déjà pris sur les terrains en actions concrètes et vérifiables. Selon lui, la mise en œuvre effective des différents accords reste la seule voie susceptible de réduire durablement les tensions, de protéger les populations civiles et de créer les conditions des retours progressifs à la stabilité dans l'est de la RDC.
La population du Nord Kivu a tant souffert. Nous exhortons les uns et les autres de respecter leurs engagements. La rébellion, lorsqu'elle est condamnée par tout le monde, même si c'est par hypocrisie que la communauté internationale le fait, parce que nous n'avons pas vu sur terrain le changement, nous pensons que nous allons continuer toujours à assister à ces drames. Nous en appelons donc au gouvernement et au M23 qui se sont engagés en Suisse à un cessez-le-feu de le faire exactement.
Cette nouvelle attaque par drone relance les inquiétudes dans les chefs de la population sur l'usage des engins aériens de la guerre.
RTE, étoile de l'information, lumière de la région.
Et notre tour de province commence par la province de l'Ituri où une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF a été signalée dans la localité de Makele, une entité située dans le territoire de Mambasa en Ituri, ce dimanche 10 mai 2026. Selon Rams Malkidoko, activiste des droits humains, dans ce territoire, les civils ont été tués, bien que le bilan exact ne soit pas encore connu. Par ailleurs, selon la même source, le bilan des récentes attaques de la chefferie de Babila Babombi s'est alourdi. Il est passé de 21 à 25 civils massacrés. Face à cette situation, Rams Malkidogo appelle l'armée congolaise à poursuivre l'ennemi et demande à la population de ne plus fréquenter les champs situés à profondeur. Nous l'écoutons dans ses propos recueillis par Farah Jakato.
Dimanche, l'ennemi a attaqué la localité de Makele, où il a encore distribué la mort aux innocents sur place. Et l'ennemi est arrivé à Bunyuka, où il a encore tué les civils. C'est vraiment déplorable parce que jusqu'à présent, l'ennemi n'est pas encore poursuivi. Et nous appelons vraiment la population à la vigilance, surtout aux ceux qui font les chats dans la partie est. Ce n'est pas encore le moment de fréquenter cette partie est parce que l'ennemi y circule librement. Nous devons rester vigilants, surtout la population de Makumo, Lokaya, nous devons être vraiment aux aguets parce que l'ennemi peut facilement nous surprendre d'un moment à un autre. Et le bilan des attaques de présumés EDF dans la chefferie de Babila Babombi ne cesse de s'alourdir. Le bilan passe de 21 personnes à 25 personnes tuées après qu'il y ait découvert d'autres corps au niveau de Nyonyonyo et au niveau de Ngubo, voire même Nakota. Et il y aurait plusieurs corps qui ils gisent encore sur le sol dans des zones comme Bunyuka, comme Mongali, Ngelia, parce que l'ennemi n'a pas été poursuivi. L'ennemi ne cesse de distribuer la mort aux innocents civils qui exercent leurs activités champêtres dans cette partie est de Biakato.
Et nous restons dans la même province. La société civile du territoire d'Irumu en province de l'Ituri dénonce la réapparition sur les réseaux sociaux des faux tracts accusant certaines personnes de la région de complicité avec les terroristes ADF. Cette structure citoyenne affirme que L'auteur du document avait déjà été identifié par les services de sécurité. Dans une mise au point publiée ce dimanche 10 mai 2026, Christophe Mnyanderu, activiste des droits humains en territoire du Rumu, indique que ce document date de plusieurs années et refait surface après l'incursion des rebelles ADF Nalu à Biakato. Cette manipulation vise à créer la peur et la confusion au sein de la population, alerte-t-il. Ainsi, la société civile appelle les habitants à ne pas relayer ces informations non vérifiées et de rester vigilante face aux rumeurs. Christophe Mnyanderu a été joint au téléphone par Degisto Mouindou.
C'est un faux document. Et surtout, ce document venait de circuler après l'attaque de Biakato. Et tout d'abord, à compatissant avec les familles éprouvées de Biakato. Et ce document n'a pas à voir avec les ADF. Nous avons plusieurs gens collaborateurs des ADF et cherchent toujours à manipuler l'opinion, à semer de la terreur, la peur dans les fifs de la communauté pour que nous puissions croire que nécessairement ces ADF voulaient encore s'attaquer et si seulement si on ne va pas remettre leur somme d'argent. Pour nous, c'est appeler la population à ne pas céder à toute manipulation, car savons tous que nous avons plusieurs collaborateurs de ces ADF qui font les propagandes de ces ADF dans des réseaux sociaux, dans des groupes WhatsApp. Dans ce monde des réseaux, ces ADF cherchent toujours à semer la terreur et mènent une guerre médiatique pour que nous ayons la peur.
Et pendant ce temps, la société civile d'Endalia dans la province de l'Ituri alerte sur la présence des ADF Nalu dans la chefferie de Walese Vokutu. Les habitants dénoncent l'inaction de l'armée et appellent les services de sécurité à intervenir pour protéger les agriculteurs dans cette région. Correspondance Jado Kieya.
Selon John Mabele, son président, ce groupe armé exigerait des habitants le paiement des jetons pour pouvoir accéder à leurs champs, compromettant ainsi la sécurité alimentaire et la quiétude de la population.
Dans son ensemble, la chefferie de Walese fait face à la présence des présumés ADF Nalu dans cette zone. La population s'est heurtée contre les difficultés liées à un jeton d'accès aux champs imposé par ces ADF. Si on n'a pas ces jetons, on risque la vie. Auparavant, quand nous avons aussi ces informations, nous pensons que c'est de la blague. Mais avec clarté, nous avons recueilli les vraies informations auprès des rescapés de l'inquisition de l'ADF. Nous l'avons même présenté devant les autorités. Enfin, on se demande qu'est-ce qui est caché derrière ces jetons et qui l'a imprimé. Ce montant sera déposé où et quand ou comment.
Tout en dénonçant ces pratiques, les forces vives de la région appellent les autorités militaires à prendre des mesures immédiates pour traquer ces groupes armés et rétablir la sécurité dans la zone.
Nous, société civile, nous appelons maintenant la force conjointe FARDC-UPDF de mettre tous les moyens pour traquer ces rebelles afin de mettre fin à cette menace pour permettre l'accès libre et facile de la population dans leur chat pour accéder à leur travail quotidien.
Les habitants, quant à eux, vivent dans une inquiétude permanente, craignant pour leurs biens et leurs familles. La société civile rappelle que les ADF Nalu représentent une menace pour la stabilité de l'Ituri et que la sécurité des chats est essentielle pour la survie de la population rurale. J'interviens depuis Oicha, Jado Kieya pour la RTE Kivu.
Et rendons-nous au sud Kivu à présent, dans le territoire de Kabare. Les cadres de concertation de la société civile mettent en garde contre les cas d'escroquerie observés dans le groupement des Bouore. Selon cette structure citoyenne, des individus se présentant frauduleusement comme des agents humanitaires chargés de recenser les ménages vulnérables en vue d'une assistance prochaine ont escroqué plusieurs familles dans cette partie de la province du Sud Kivu. Ces derniers exigeraient de l'argent aux habitants en échange d'un prétendu jeton d'enregistrement. Rodrigue Mangwa Kongwa, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Kabare, appelle la population à la vigilance. Il est ici dans ses propos recueillis par Egede Abala, oui, notre permanent dans la région.
Nous, cadre de concertation de la société civile de Kabare, nous dénonçons et alertons fortement sur la présence des fraudeurs et des escrocs qui ont circulé dans le groupement des Bougores depuis le mois de mars et le mois d'avril 2026. Ces derniers se sont présentés sous la casquette des humanitaires et ils ont commencé à demander de l'argent aux paisibles citoyens en leur promettant de leur donner une assistance en vivre et non vivre. Certains citoyens ont donné 40 000 francs, d'autres ont donné 50 000, 200 000, donc chacun donnait selon la quantité de vivres qu'on était en train de lui promettre. Et après un temps, on a vérifié et on a trouvé que ce sont des personnes mal intentionnées qui se sont données à cette pratique d'escroquer les biens de la population. Par rapport à cela, demandons en tout cas l'implication des autorités locales et des organisations humanitaires pour que cette pratique cesse immédiatement et que les auteurs soient dénichés et punis conformément à la loi. Nous demandons également à la population d'être vigilante et de tirer attention et de ne pas céder aux caprices de ces fraudeurs.
Toujours dans la même province, la situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante dans la zone de santé des Minova, territoire de Calais, en province du Sud Kivu. Cette crise est aggravée par des conflits prolongés qui secouent la région, mais également par le retrait progressif de plusieurs partenaires et bailleurs du secteur de la santé. Face à cette détérioration et de l'accès aux soins, l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières, MSF, appelle à une mobilisation urgente afin d'éviter une catastrophe sanitaire dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Gorette Sifa pour plus de détails.
Selon Médecins Sans Frontières, la crise actuelle est aggravée par les conflits prolongés qui secouent la région, mais également par le retrait progressif de plusieurs partenaires du secteur de santé. L'arrêt du financement de la Banque mondiale a notamment porté un coup dur au fonctionnement des structures sanitaires de Minova. Les conséquences de cette crise sont particulièrement visibles au niveau des soins obstétricaux et néonatales. Depuis la fin de certains emplois financiers au début de l'année 2026, l'hôpital général de référence de Minova a instauré de nouveaux frais médicaux atteignant jusqu'à $100 américains pour une césarienne et $50 pour la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Ces coûts élevés deviennent insupportables pour de nombreuses familles déjà fragilisées par la guerre et par la précarité économique. Certaines familles restent hospitalisées durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, faute de moyens pour régler les factures médicales. D'autres préfèrent abandonner les soins et recourent à des accouchements à domicile, augmentant les risque de complications et de mortalité. D'après les données de l'hôpital général de référence de Minova, la fréquentation de la maternité a chuté près de 34% en janvier et février 2026 par rapport à l'année précédente, immédiatement après l'arrêt de l'appui de la Banque mondiale. Face à cette situation alarmante, le MSF plaide pour une intervention rapide des autorités congolaises et des partenaires internationaux afin de rétablir l'accès aux soins essentiel dans le Sud Kivu, où des milliers de personnes restent exposées à une crise sanitaire majeure. Depuis Bukavu, Goret Sifa pour la RTEE.
Et d'une province à une autre, la population de Moulemaï dans le territoire de Kabinda dans la province de Lomami a bénéficié des centres de santé modernes. La remise officielle de ce bâtiment a eu lieu hier samedi 9 mai 2026 sous la supervision de l'administrateur du territoire de Moulemaï, plus précisément dans le groupement de Moulungu. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de garantir la santé de qualité à cette population qui pouvait faire plusieurs kilomètres pour accéder aux soins médicaux. Plus de détails, c'est dans ce reportage de Benjamin Loubou.
Dans les territoires de Kabinda, plus précisément dans le groupement de Moulungu 2, dans la localité de Moulemaï, une équipe conjointe de l'administration s'est rendue pour procéder à la remise officielle d'un bâtiment des centres de santé. Ces infrastructures ont été construites par l'entreprise Prise, dont les travaux sont évalués à 90% des réalisations. La délégation était composée de l'administrateur du territoire de Kabinda et du maire des zones de Kabinda. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte assistance, notamment des responsables locaux et partenaires du secteur de la santé. Au terme de cette cérémonie, l'administrateur du territoire de Kabinda, Gédéon Ngoï Kitwadi, a procédé à la remise officielle de ce bâtiment à l'institution compétente, ainsi que d'un lot important de matériel de santé destiné à garantir un fonctionnement efficace et adapté aux besoins de la population. Retenons que ce centre de santé a une capacité d'accueil de plus de 100 patients. Il comprend notamment plusieurs lits, des chambres ou salles d'hospitalisation, une infrastructure moderne avec une capacité renforcée de services, un système énergétique soutenu par des panneaux solaires photovoltaïques afin d'assurer une continuité des soins même en cas d'instabilité du courant. Pour votre gouverne, la localité de Moulemaï est située à plus ou moins 60 km de la ville de Kabinda. Il est dans les territoires de Kabinda, groupement de Moulungoudou, dans le secteur de Lukashi Lualo. J'interviens depuis la ville de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, Benjamin Lobo, RTE Kivu.
Et nous restons dans la même province avec vous, Benjamin Lobo, célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse dans cette province. Les journalistes de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, ont débuté les activités relatives hier samedi 9 mai 2026 avec une marche de santé partie de l'installation de Kabinda jusqu'au centre captage de la régie des eaux à Kabinda. Nous sommes là dans la province de Lomami. Faisons-en le point avec vous, Benjamin Lobo.
Unis autour d'une marche de santé pour célébrer cette journée, les professionnels de médias de la ville de Kabinda ont répondu massivement à l'appel du comité organisateur, placé sous les signes de la cohésion, de la solidarité et du bien-être des journalistes. Cette activité a réuni plusieurs acteurs des médias locaux dans une ambiance fraternelle et conviviale, témoignant de la volonté commune de promouvoir une presse libre, responsable et unie au sein de la province de Lomami. Tonton Joseph Ntanga, vice-président de l'INPC Lomami, nous donne les détails.
Merci beaucoup à toute la presse lomamienne. Donc je parle de confrères de nos cinq territoires ainsi que nos deux villes. C'est vraiment notre journée qui ne doit pas passer inaperçue. Chaque section territoriale ou urbaine peut aussi organiser des activités comme ça et faire aussi à l'occasion faire entendre la voix du journaliste lomamien que nous sommes et aussi faire en sorte que nous restons dans le professionnalisme, dans la façon de faire les choses, capaciter les amis qui peuvent avoir des lacunes, c'est l'occasion pour que nous puissions nous parler entre nous-mêmes et améliorer ce qui ne va pas pour que nous soyons cette presse qui construit ou qui participe au développement de la province de Lomami à l'instar des autres services ou institutions.
Selon les comités organisateurs, cette marche de santé ouvre officiellement une série d'activités prévues tout au long de ce mois de mai jusqu'au 25 mai prochain. J'interviens depuis la ville de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, Benjamin Lobo, RTE Kivu.
Et nous finissons par cette information qui nous vient du Kassai oriental, direction où deux arrêtés provinciaux ont été signés par le gouverneur des provinces, Jean-Paul Mwekwabo. Il s'agit de l'arrêté portant remaniement du gouvernement provincial ainsi que l'arrêté portant nomination des cadres de commandement de la régie financière de la province du Kassai oriental. Suivez la lecture de ces deux arrêtés signés notre correspondant dans cette province.
Article 1. Le gouvernement provincial du Kassai oriental compte 10 portefeuilles ministériels respectivement animés comme suit par les ministres nommés aux fonctions en regard de leur nom. 1. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, des relations avec l'Assemblée provinciale, Coopération interprovinciale et PNTIC. Monsieur Mukendi Makanda Patrick. 2. Le ministre provincial du Portefeuille, de l'Éducation, de l'Emploi, de la Fonction publique et du Numérique. Monsieur Kabuya Mende Elias Élysée. 3. Le ministre provincial de la Santé publique, de l'Hygiène, de la Prévention, des Affaires sociales et des Actions humanitaires, du Travail et de la Prévoyance sociale. Monsieur Kazadi Chilumbayi Daniel. 4. Le ministre provincial des Finances, de l'Économie, de l'Industrie, de l'Artisanat et de Petites et Moyennes Entreprises. Monsieur Kadiaï Ilunga Elvis. 5. le ministre provincial des infrastructures, des travaux publics, de la reconstruction, des transports, des voies de communication. Monsieur Kalonji Chibumba Joachim. 6. Le ministre provincial de la justice, des droits humains, de l'entrepreneuriat, de la communication, des médias et porte-parole du gouvernement, Monsieur Ilunga Pascal Ernest. 7. Le ministre provincial de l'aménagement du territoire, des affaires foncières, de l'urbanisme, de l'habitat, de la jeunesse, de la culture et des arts, du tourisme, des sports et des loisirs. Monsieur Katambai Kabea Gaston. 8. Le ministre provincial du plan, du budget, du commerce extérieur, des ressources hydrauliques et de l'électricité, Monsieur Kamanga Senda Lukusa Charles. 9. La ministre provinciale des mines, des hydrocarbures, du genre, de la famille et de l'enfant, Madame Babu Mukendi Nana. 10. La ministre provinciale de l'environnement, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du développement rural, Madame Moulanga Kassanda Chantal.
Et mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition de ce dimanche 10 mai 2026 sur les antennes de la RTEE. Merci de nous avoir suivis.
RTEE, la voix qui nous unit, l'image qui nous ressemble.